regarder comment Jésus enseignait-il. Est-ce qu'il le faisait comme un pasteur en chair? Et il y a un garçon qui a répondu tout de suite, non, lui il parlait bien. Bon, je vais essayer de parler bien moi aussi ce matin. En tout cas, on va faire une prédication un petit peu différente. On m'a demandé de parler sur la foi. On va utiliser aussi le tableau pour prendre quelques notes. La foi. Alors, je sais pas, vous savez peut-être que ce petit mot « foi » apparaît des dizaines, même des centaines de fois dans la Bible. Rien que dans le Nouveau Testament, ce mot apparaît plus de 240 fois. Sans parler des synonymes, hein, il y a plusieurs synonymes qui apparaissent dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et donc cela montre que ce sujet est très important, la foi. Et il y a un verset de la Bible qui nous dit pourquoi ce sujet est important. Alors c'est Estelle qui va nous lire Hébreux chapitre 11, verset 6. Si on a besoin d'un micro ici pour la lecture de ce verset. Hébreux chapitre 11, verset 6.
Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent.
Voilà, merci. Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très important, n'est-ce pas? Je sais que les ados ont déjà lu certains textes dans l'enseignement de l'école dimanche qui parlent de la foi d'Abraham. Abraham qui est considéré le père de la foi. Le père de la foi. Et il est dit de lui dans Genèse chapitre 15, verset 6. Alors, Vili, je pense qu'il n'est pas là ce matin, donc c'est une grande ado qui va faire la lecture de ce verset. Genèse chapitre 15, verset 6.
Abraham eut confiance dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste.
Voilà, donc ces deux versets, il y a beaucoup d'autres, n'est-ce pas, montrent l'importance de la foi pour la vie du croyant, pour l'importance de la foi dans la vie chrétienne. C'est quelque chose d'essentiel. Et c'est pour cela que ce matin, on va essayer d'avoir assez de temps pour voir trois questions. D'abord, d'où vient la foi? D'où vient la foi? D'abord, la première question, c'est qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Alors, on va inverser. Qu'est-ce que la foi? D'où vient-elle? Et à quoi sert-elle? À quoi sert-elle? Voilà. Alors commençons par la première question. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Si on utilise son synonyme, je dirais, non religieux, le mot confiance, vous savez que dans la vie, tous les jours, c'est plutôt ce mot-là qu'on utilise, hein, dans les conversations, disons, non religieuses, c'est le mot confiance. Si on utilise ce mot-là, non confiance, qui apparaît aussi dans la Bible, hein, le mot confiance apparaît dans la Bible, on peut dire que la foi confiance, si on peut dire comme ça, la foi confiance, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie de tous les jours. Chaque jour, nous mettons en pratique ce qu'on appelle la confiance, n'est-ce pas? Je dirais qu'elle est l'élément le plus répandu dans le monde, la confiance. Elle fait partie de nous-mêmes, de notre nature. La vie serait impossible sans un minimum de confiance. La vie serait complètement impossible. Et donc, nous l'exerçons à chaque instant, dans nos vies de chaque jour. Et je vais vous proposer quelques exemples pratiques. On va faire peut-être un petit jeu. On va bander les yeux d'un volontaire. Allez, est-ce qu'il y a un volontaire, un ado volontaire qui veut venir ici? Voir s'il fait confiance. Et on va lui demander de s'asseoir sur une chaise. Les yeux bandés, c'est tout. Est-ce qu'il y a un volontaire qui veut venir? On va choisir un volontaire? Alors, c'est qui va venir? Bon, alors, c'est...
Un
ado. Un grand ado, allez. Voilà, tu attends un petit peu ici. Hein. Alors, tu fais un demi-tour, tu avances. Stop. Tu fais un pas à droite, à ta droite. Tu fais un demi-tour et tu t'assois. Voilà, on peut applaudir. Merci Hervé, c'est un homme de foi, de confiance. C'est bon, t'es sauvé. Alors, un autre jeu qu'on pourrait faire, c'est le jeu de la bûche. Alors, j'ai demandé aux jeunes de répéter un petit peu. Je ne sais pas s'ils ont eu le temps. Il a plu hier. Alors, on va demander à un groupe de jeunes de venir devant, de faire un cercle debout. Et on va choisir un parmi eux qui va faire la bûche, hein, qui restera raide au milieu, au centre de la... Oh là là, ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux. Alors, il faut faire un cercle, hein. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais il faut faire un cercle. Il faut faire un cercle. Et un cercle, il faut que le centre soit plus étroit. Donc, voilà, la bûche, c'est Néhémie. Hein? Allez, on va voir s'il fait confiance. Voilà, on peut applaudir très fort. Alors, est-ce que les jeunes ont peut-être un sketch à nous proposer? Oui? Peut-être, voilà, on peut faire appel à est-ce qu'il y a un ado volontaire pour faire la bûche, c'est ça? Pour faire la bûche?
Ne mets trop lourd.
Allez. Est-ce qu'il y a un ado volontaire qui veut faire la bûche? C'est Clara, la courageuse. Voilà. Alors là, peut-être il faut que vous fassiez un cercle plus étroit, plus petit. Je ne veux pas faire le secouriste ce matin. Au revoir, oui. Voilà, on applaudit très fort. Merci. Est-ce que les jeunes ont un sketch ou... Non? Voilà. Voilà, c'est vrai qu'on pourrait faire d'autres jeux pour montrer que la confiance fait partie de notre vie de chaque jour. Je sais que les ados dans leur colonie, dans leur camp d'été, n'est-ce pas, font aussi le saut de l'ange, n'est-ce pas? Et, il y a un joueur qui fait le sauteur et il y a un groupe qui fait un petit couloir, ils sont tournés les uns vers les autres. Et donc le sauteur se trouve à 4-5 mètres, il court et il saute en l'air. Et les jeunes doivent donc mettre les mains pour le recevoir en douceur. Donc tout se joue dans la confiance que le sauteur fait à ce groupe de personnes. Mais on ne va pas faire ici parce qu'on n'a pas de place. Alors, on pourrait multiplier donc les exemples, n'est-ce pas, pour démontrer que la foi-confiance fait effectivement partie de notre vie de chaque jour. Elle se voit dans des gestes tout simples de la vie de chaque jour, comme le fait de prendre une chaise, n'est-ce pas, hein? On le fait sans avoir les yeux bandés, mais il faut faire confiance à la chaise aussi, n'est-ce pas? On n'est pas tout le temps en train d'analyser les chaises chez nous ou à l'église pour voir si elles sont capables de nous recevoir. Dans l'acte de jouer les uns avec les autres, il faut se faire confiance. Bien sûr, là, s'il y avait un problème, si les joueurs commençaient à pousser un peu trop fort la bûche aurait de quoi se méfier, mais ce n'était pas le cas ce matin, donc tout s'est bien passé. Quand on prend le bus le matin, on le prend toute confiance, n'est-ce pas? On se pose des questions. Quand on sort de notre maison le matin, on ne se pose pas de questions, ça va, est-ce que je vais pouvoir arriver à l'école, je vais avoir un accident, il y a une voiture qui va m'écraser, ou une moto, non. On sort en toute confiance. Quand on va voir le médecin, même le dentiste, n'est-ce pas? On fait confiance, n'est-ce pas, qu'il va bien nous soigner. Donc, d'une manière générale, on vit dans la confiance. Et heureusement qu'on vit dans la confiance, parce que la vie, sans un minimum de confiance, serait tout simplement impossible. Donc, on peut dire que, d'une certaine manière, la foi se traduit par la confiance, n'est-ce pas? Par la confiance. Il y a un minimum de confiance. La foi est en quelqu'un ou en quelque chose. Ce quelqu'un, pour nous les chrétiens, C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ. Ceux qui ont participé au jeu ont fait confiance. Ils ont cru à ce qu'on leur disait. Ils se sont fiés à nous. Ils ont reçu comme vrai ce qu'on leur a dit. Dans la Bible, on trouve aussi plusieurs mots pour définir la foi, pour définir la foi, pour exprimer l'idée de confiance. Se confier dans le Seigneur, s'appuyer sur lui, compter sur lui, se réfugier en lui, s'attendre à lui, s'attendre avec espérance que ses promesses s'accomplissent. Lui être fidèle, croire en lui, dans sa parole, le recevoir. Il y a même un passage dans un psaume qui dit « Rouler sur l'Éternel comme un enfant roule sur son papa avec confiance. » Donc on peut dire que la foi, la confiance, est le contraire du doute, de la méfiance, de l'hésitation, de l'incrédulité, n'est-ce pas? C'est vraiment faire confiance, être assuré que ce qu'on veut faire va se concrétiser. Ceci dit, si on veut être honnête, il y a des fois où on a la foi, mais pas trop, n'est-ce pas? On hésite un petit peu quand même, hein? Non? Il y a des fois où on hésite. Je vais vous donner un exemple. Un exemple que j'ai, une petite illustration que j'ai entendue quand j'avais 10 ans, donc ça fait déjà longtemps. Mais il s'agit d'une chute d'eau. Alors, je vais essayer de faire un joli dessin. Vous savez que je suis doué pour les dessins, hein? Je suis très doué. Et donc, c'est une chute d'eau. Vous avez entendu parler du funambule. La chute d'eau est là. Hein? Vous avez entendu parler de Blondin, le funambule Blondin, n'est-ce pas? Quelqu'un, c'est un équilibriste, un acrobate qui a vécu dans les années 1800 et quelques, 850, 860. Et lui, il faisait quelque chose de très intéressant. C'est que là, c'est une corde donc, d'une largeur de 335 mètres au-dessus des chutes, à 50 mètres au-dessus des chutes de Niagara. Et il traversait, il faisait l'équilibre sur cette corde. Hein, et il y avait des foules immenses qui venaient l'applaudir et voir ce qu'il faisait. Et il commençait souvent par... je vais quand même dessiner Blondin. Et donc, il traversait cette chute d'abord avec un contrepoids, donc quelque chose qu'il faisait très simplement, la foule l'applaudissait. Mais après, il faisait des acrobaties de plus en plus compliquées. Et un jour, il y a eu une délégation d'Angleterre qui est venue le voir. Et il a commencé par faire la traversée d'abord sur des échasses. Et il l'a fait. Et après, on lui a bandé les yeux aussi, et il l'a fait à nouveau. Et après, il a pris une brouette, et il a traversé la chute, il a fait le va-et-vient avec la brouette sur cette corde. Après, il a mis un sac de pommes de terre, d'une cinquantaine de kilos, dans la brouette, et il a fait la même chose, le va-et-vient. Et tout d'un coup, il s'est tourné vers cette délégation royale. Il y avait donc le duc de Newcastle, et il lui a dit... Est-ce que vous croyez que je sois capable de traverser cette chute avec quelqu'un dans ma brouette? Et le duc a dit, mais bien sûr, vous êtes capable de le faire. Alors Blondin lui a dit, alors venez prendre place, vous serez le premier homme à faire cette traversée dans une brouette. Et il a dit, non, pas moi, je ne suis pas capable de le faire. Et donc il a refusé de le faire. Alors il s'est tourné vers la foule. Et il a demandé, est-ce que vous croyez que je puisse traverser cette chute avec quelqu'un dans la brouette? La foule est restée en silence. Plus personne ne disait rien. Il a attendu quelques minutes et il y a une vieille dame qui est sortie de la foule et qui est allée s'asseoir dans la brouette. Et donc Blondin, il a traversé, il a fait la traversée des 335 mètres avec cette dame dans sa brouette. Il a fait le va-et-vient. Alors, qui était cette femme qui a placé sa vie entre les mains de cet homme? Qui était cette vieille femme? C'était sa mère. Et pourquoi sa mère a fait confiance à son fils? Parce qu'elle avait une relation de confiance avec lui, n'est-ce pas? La relation de confiance était tellement forte qu'elle a placé sa vie entre les mains de son fils et donc elle a fait confiance. Alors on pourrait dire que dans notre vie avec le Seigneur, en ce qui concerne l'Évangile et Jésus, c'est la même chose. Il nous faut avoir une relation de confiance avec le Seigneur, n'est-ce pas, pour accomplir certaines choses qu'il nous demande de faire. Il nous faut avoir cette relation de confiance. Et pour avoir cette relation de confiance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien le connaître. On ne met pas notre vie entre les mains de quelqu'un si on ne connaît pas cette personne, n'est-ce pas? Il faut bien connaître cette personne. Alors pour nous, les chrétiens, nous avons la possibilité, nous avons tout ce qu'il faut pour connaître le Seigneur Jésus, pour lui faire confiance. Donc, cet exemple nous montre que la foi n'est pas simplement quelque chose d'intellectuel. Ça ne se passe pas uniquement au niveau du savoir, de la tête, n'est-ce pas? Non, c'est quelque chose de plus profond. La foi est un engagement aussi. En tout cas, la foi exige un engagement de notre part. Ce n'est pas simplement dire « oui, je crois ». Non, c'est s'engager avec confiance, n'est-ce pas, dans ce que le Seigneur nous demande de faire. Il y a des pas concrets à mettre en pratique, n'est-ce pas, lorsque nous disons que nous faisons confiance au Seigneur. Donc, avoir la foi, croire, c'est s'engager. S'engager avec le Seigneur. S'engager personnellement et concrètement avec le Seigneur. C'est ce qu'Abraham a fait, n'est-ce pas? Vous avez vu, Abraham a quitté son pays, Ur de Chaldée, n'est-ce pas, pour obéir à la voix du Seigneur. Et il l'a fait pour aller à la terre promise, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur lui a dit de faire cela. Et il a obéi. La foi nous demande de nous mettre en route avec le Seigneur, de marcher, de nous mettre en route avec le Seigneur. Donc jusqu'ici, nous avons, alors, peut-être c'est bien de noter certaines choses, nous avons vu donc que la foi est une attitude de confiance. Hein? Attitude de confiance. La foi est une relation de confiance. La foi est un engagement. La foi est un engagement. Et donc, on pourrait parler de foi confiance, de foi relation et de foi action. Les trois choses sont liées. Alors maintenant, voyons la deuxième question. D'où vient la foi? D'où vient la foi? Nous avons la réponse dans Romains chapitre 12, chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Ces versets sont clairs, n'est-ce pas? La foi nous vient de la parole de Dieu et de son écoute. La foi nous vient de la parole de Dieu et de son écoute. Nous avons donc besoin d'entendre la parole de Dieu. Nous avons besoin d'entendre la parole du Christ, la parole de l'Évangile, comme on vient d'entendre ce verset, n'est-ce pas? Cela veut dire aussi que la foi chrétienne est une histoire. La foi chrétienne a un contenu. La foi chrétienne a un fondement que nous trouvons dans la Bible, la parole de Dieu. On peut encore... Natalia est là? Sinon, je ne sais pas qui a le verset, c'est Elisabeth alors. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13.
Quand nous avons annoncé la parole de Dieu, vous l'avez écoutée et accueillie non comme une simple parole humaine, mais comme la parole de Dieu, ce qu'elle est réellement.
Merci. Donc le message des apôtres, n'est-ce pas, était aussi la parole de Dieu. Et toutes ces histoires que nous trouvons dans la Bible, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, que nous apprenons à l'Église, dans l'école dimanche, etc., tout l'enseignement des prophètes, de Jésus-Christ et des apôtres a été consigné dans la Bible. Et l'apôtre Paul le dit, pour notre instruction, pour nous amener à la foi en Jésus-Christ. C'est aussi intéressant de lire ce que Jésus dans l'Évangile dit dans l'Évangile de Jean chapitre 20, verset 31. Qui a ce verset? Oui?
Mais ce qui se trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et si vous croyez en lui, vous aurez la vie par lui.
Merci, Anna. Pour que vous croyiez, n'est-ce pas? Cela a été écrit, rassemblé dans l'Évangile pour que vous croyiez en Jésus-Christ. La foi chrétienne a pour objet ce que Jean appelle le témoignage de Dieu ou le bon dépôt de la foi selon le livre de Jude. C'est quelque chose d'essentiel qu'on a ici dans la parole de Dieu. Il est donc fondamental que nous prenions connaissance du message essentiel de l'Écriture. Et vous savez que depuis le début, les gens se sont tournés vers le Seigneur avec foi grâce à l'annonce, à la prédication de la parole de Dieu. Depuis le début, les prédicateurs de l'Évangile ont prêché la parole de Dieu. Il suffit de voir le message de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte ou des autres apôtres. C'était toujours la parole de Dieu qu'ils annonçaient. Ils ont même fait des résumés de l'essentiel du message de la Bible, l'essentiel de l'Évangile. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 4, on a un résumé. C'est Clara qui va lire.
Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau et il est revenu à la vie le troisième jour, comme il l'avait annoncé les Écritures.
Merci. Voilà donc l'essentiel de ce que nous devons savoir sur Jésus-Christ. Vous savez, dans certaines églises, il y a ce qu'on appelle des credos qui sont répétés chaque dimanche par l'Église pour rappeler des choses essentielles, les choses essentielles du message de la parole de Dieu. Credo veut dire « je crois, j'accorde du crédit ». Alors que la parole de Dieu soit crédible, nous aide, n'est-ce pas, aujourd'hui à faire un pas de foi vers le Seigneur, à nous tourner vers lui avec toute confiance. Notre foi, donc, n'est pas une foi aveugle, elle s'appuie sur quelque chose de solide, de concret. Les révélations de Dieu dans sa parole, ses actions dans l'histoire des hommes, parce que c'est ce que la Bible nous raconte, n'est-ce pas ? C'est l'intervention de Dieu dans la vie d'un peuple, dans la vie des hommes et des femmes, n'est-ce pas ? C'est la Bible qui me fait connaître le plan de Dieu pour le monde et pour ma vie. Je sais par la Bible que Dieu est le créateur de l'univers, que c'est lui qui nous a créés, n'est-ce pas ? Je sais par la Bible que je suis pécheur et que Jésus est le sauveur, que Jésus peut être mon sauveur. Je sais par la Bible que Dieu est en train de construire un monde nouveau, une société nouvelle avec son Église, nous, ses enfants, les chrétiens. Je sais par la Bible que Dieu est un Dieu d'amour et de grâce et qu'il veut me faire grâce. Et c'est grâce à la parole de Dieu, lue, écoutée, méditée, étudiée, que notre foi peut grandir, n'est-ce pas, lorsque nous vérifions que les promesses de Dieu s'accomplissent aussi dans nos vies à nous aujourd'hui. Alors la dernière question, c'est à quoi sert la foi ? Alors on pourrait dire beaucoup de choses sur cette question, à quoi sert la foi ? Je vais essayer de résumer, elle sert, nous avons vu au début, n'est-ce pas, elle sert à plaire à Dieu. Car sans la foi, nous ne pouvons pas plaire au Seigneur. Elle nous permet de réaliser que nous avons besoin d'être sauvés. Elle nous permet de réaliser que c'est Jésus-Christ qui a pris notre place sur la croix pour payer le prix de nos péchés. La foi est le canal par lequel nous pouvons accueillir la grâce de Dieu. C'est elle qui me permet de recevoir le pardon de Dieu, d'être sauvé et de commencer une vie nouvelle. Et là, peut-être on peut lire un verset qui est très, très important dans la prédication de l'Évangile. C'est Éphésiens chapitre 2, verset 8. Et c'est Néhémia qui va lire ce verset.
C'est dans la grâce de Dieu que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il y a un don de Dieu.
Merci. Voilà. La grâce de Dieu, le canal, c'est la foi, n'est-ce pas ? La grâce de Dieu, de notre côté, c'est la foi. C'est par la foi que nous pouvons recevoir sa grâce. Le message de l'Évangile peut se résumer par cette phrase que nous trouvons souvent dans la Bible, cette phrase qui était dite par les prédicateurs, les apôtres, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est la foi qui me permet de croire à Jésus. C'est elle aussi qui me permet de vivre une vie différente de celle de mes copains à l'école, au collège, qui ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est elle qui me permet d'avoir un comportement différent, un comportement qui plaît à Dieu, un comportement agréable au Seigneur. C'est la foi qui me permet de m'écarter des mauvaises actions, n'est-ce pas, du comportement de ceux qui font de mauvaises choses. C'est elle qui me permet de pardonner à ceux qui me font du mal. Ça nous arrive aussi, n'est-ce pas, même à l'école. C'est elle qui nous permet de faire du bien à ceux qui nous offensent, à ceux qui nous font du mal. C'est elle qui me permet de me soucier des autres, de mon prochain. La Bible dit aussi que la foi peut me servir d'armure. D'armure contre les mauvaises choses qui peuvent m'arriver, qui se passent souvent dans nos vies, n'est-ce pas? Les difficultés, les peurs, les tentations, hein, ce sont des choses qui nous arrivent. La foi peut nous servir d'armure contre ces choses. C'est la foi qui peut me donner la paix intérieure dont j'ai besoin pour vivre ma vie de chaque jour et aussi la certitude que ma vie, quoi qu'il arrive, se trouve dans les mains de Dieu. C'est grâce à la paix, n'est-ce pas, que je peux donc, grâce à la foi, que je peux m'approcher de Dieu en toute confiance, jour après jour. C'est elle qui me permet de vivre par la foi. Le juste vivra par la foi, comme dit la parole de Dieu. C'est elle qui me permet de tourner mon regard vers l'avenir avec confiance, même vers l'avenir éternel. Bon, c'est vrai que quand on est jeune, très jeune, on ne pense pas à ces choses, mais il y a un avenir éternel pour chaque enfant du Seigneur. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère sans les voir encore, dit la parole du Seigneur. C'est la foi qui me permet de passer à l'action. De passer à l'action et de voir parfois des miracles se réaliser dans ma vie et dans la vie des autres. Les Écritures sont remplies d'exemples d'exemples de foi. Si vous lisez le chapitre 11, l'épître aux Hébreux, vous avez une liste d'hommes et de femmes qui ont honoré Dieu par leur foi. Et leur foi les a conduits à faire des choses parfois extraordinaires. Des choses extraordinaires, des choses qui ont plu à Dieu. Et Dieu a béni ces personnes et Dieu a utilisé ces personnes pour accomplir son projet pour ce monde. L'histoire de l'Église est pleine d'hommes et de femmes qui ont également honoré Dieu par la foi. Ce n'est pas simplement dans la Bible. Même aujourd'hui encore, il y a des hommes et des femmes qui honorent Dieu par leur foi. Des hommes et des femmes qui sont montés dans la brouette du Seigneur pour faire des choses difficiles, des choses très difficiles, mais ils ont pu le faire parce qu'ils ont fait confiance au Seigneur. Ils sont montés dans la brouette du Seigneur, peut-être pas pour traverser les chutes du Niagara, mais pour faire d'autres traversées, peut-être encore plus difficiles que cette traversée-là. Et ils l'ont fait parce que le Seigneur leur a demandé de faire. On pourrait citer plusieurs exemples de l'histoire de l'Église, mais j'ai pensé à deux. Hudson Taylor, vous avez entendu parler d'Hudson Taylor, ce grand missionnaire qui est parti en Chine, n'est-ce pas, évangéliser les Chinois dans les années 1800 et quelques. Et il a fait un travail extraordinaire là-bas, à cette époque, ce n'était pas facile. Et en 1890, des centaines d'églises avaient été déjà créées en Chine grâce au travail missionnaire d'Hudson Taylor. Il a fait cette traversée qui n'était pas facile parce que le Seigneur lui a dit d'aller là-bas évangéliser. Et aujourd'hui, il y a des millions de chrétiens en Chine. J'ai pensé aussi à Georges Müller, qui était un homme de foi et de prière, un homme qui aimait la parole de Dieu. Il a été touché quand il était enfant, il devait avoir une dizaine d'années, lorsqu'il a vu des chrétiens dans une église prier à genoux. Aujourd'hui, dans nos églises, on ne le fait plus souvent, n'est-ce pas? On se met debout, mais il priait à genoux. Et ça a tellement touché Georges Müller qu'il est devenu chrétien et il a vécu une vie chrétienne vraiment de foi et de confiance au Seigneur. Et cet homme avait un cœur pour s'occuper des orphelins abandonnés dans les rues d'Angleterre. Il a créé un orphelinat à Bristol qui avait une règle très simple, se fier entièrement à Dieu pour assurer tout besoin. Et vous savez, il leur est arrivé à lui et aux enfants de cet orphelinat de se mettre à table les assiettes vides, sans rien à manger. Et lui, il priait avec les enfants pour remercier la nourriture qui allait arriver. Et après la prière, quelqu'un frappait à la porte et il arrivait avec plein de nourriture pour les enfants. Voilà ce que la prière et la foi peuvent faire dans la vie de celui qui fait confiance au Seigneur. La foi nous pousse à obéir à la voix de Dieu, car la foi est l'attitude par laquelle nous plaçons toute notre confiance dans le Seigneur, en comptant sur lui, non seulement pour notre salut, mais aussi pour tous les autres aspects de notre vie, même les plus petits détails de notre vie. Elle nous permet de nous emparer des promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu sont nombreuses dans sa parole. Elle nous permet de nous réfugier en lui quand ça ne va pas, de nous appuyer sur lui comme étant l'ami qui ne fera jamais défaut dans notre vie. La foi, on peut dire, c'est notre main tendue vers la main de Dieu qui est déjà tendue pour nous recevoir avec amour. Est-ce que nous sommes prêts à monter dans la brouette du Seigneur? Si c'est le Seigneur qui nous dit de monter dans sa brouette, est-ce que nous sommes prêts? Peut-être que le Seigneur nous demandera de traverser la Méditerranée, l'Atlantique, le Pacifique pour aller dans n'importe quel pays, dans un pays quelconque, comme missionnaire. Le Seigneur continue à appeler des gens aujourd'hui pour le faire, n'est-ce pas? Nous avons la famille Turquet au Cameroun qui a été appelée à aller là-bas comme missionnaire. Le Seigneur continue à appeler des hommes et des femmes pour faire cela. Est-ce que nous serions d'accord de laisser nos familles, notre pays, nos amis, etc., pour faire ce que le Seigneur nous demande de faire? Peut-être que le Seigneur un jour vous demandera, lorsque vous serez bien installé dans la vie, avec un bon emploi, bien rémunéré, de laisser tomber ça pour aller servir le Seigneur quelque part, dans une œuvre sociale, ou peut-être passer dans une église, ou que sais-je encore. Est-ce que vous êtes prêts à monter dans la brouette du Seigneur? Si Dieu est la source de notre vie, s'il en est le donateur et le soutien, nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons lui faire confiance, car Dieu n'a jamais cessé de prouver qu'il est digne de confiance. Nous avons vu ce matin la fidélité du Seigneur, n'est-ce pas? Dieu est fidèle, nous pouvons lui faire confiance. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse les ados de notre Église. Alors, j'ai proposé qu'on chante un chant qu'on a chanté dimanche dernier. C'est vrai qu'il n'est pas directement